Catherine Eve Gadouri a attiré notre attention cette semaine sur la Journée mondiale de la radio. Encore une bonne idée, Catherine Eve, que vous nous avez donnée en réunion. Pourquoi pas revenir sur ce médium qu'on aime tellement? J'imagine que vous, qui êtes à l'écoute, ben, vous l'aimez aussi. Alors, on a réuni autour de cette table, en plus de Gilles Pellerin qui reste là, Richard Sainte-Marie, qui est un artiste en art visuel, un écrivain, dont les nouvelles policières, d'ailleurs, vous ont valu plusieurs prix. Mmh. Richard Sainte-Marie, bonjour.
Merci, bonjour.
André-Pierre Bérubé. André-Pierre est recherchiste. Il a travaillé notamment à Première Heure. Maintenant, il est à la Semaine Verte et c'est un autre mordu jeune de la radio. Bonjour, André-Pierre.
Bonjour.
Et Claude Thibodeau est avec nous aussi. Donc, on connaît bien Claude Thibodeau parce qu'on l'entend beaucoup sur nos ondes. Jamais trop à notre goût, par contre. C'est un analyste, spécialiste réputé, donc, de la radio, qui a aussi été propriétaire, administrateur de stations de radio. Il a dirigé aussi Télé 4 ici à Québec, en plus d'animer, notamment au 93, je pense. Mmh. Bonjour, Claude Thibodeau.
Oui, bonjour, bonjour.
Alors, vous avez été invité, vous, Claude, à prononcer une conférence sur l'histoire de la radio lors du 400e. C'était le regretté Bernard Arcan qui vous avait invité.
Oui, un gars formidable. Ouais.
Vous allez pouvoir revenir donc sur plusieurs faits saillants de l'histoire de la radio. Mais juste avant, j'aimerais vous entendre, vous, Richard et André-Pierre, sur votre consommation de la radio. Qu'est-ce qui fait de vous un mordu de la radio, Richard Sainte-Marie?
Ben, j'écoute la radio depuis que je suis tout petit, avant même que la télévision existe. On écoutait ça en famille, la radio, à ce moment-là. Puis je me rappelle très bien de ces soirées-là où c'était agréable en famille d'écouter comme on fait pour la télévision maintenant. J'ai toujours aimé la radio. J'ai toujours eu un petit goût d'en faire, mais jamais, comme tout le monde, jamais l'occasion. Jusqu'au jour où j'ai proposé à Robert Blondin une émission sur Rodin. Il a dit oui. On est allé à Paris, on l'a faite. Puis là, j'ai vu qu'il était du bon côté du micro, c'était lui. J'ai eu une émission d'ailleurs qui s'est appelée comme ça après, le bon côté du micro. Et là, la piqûre est encore plus forte, de sorte que j'ai essayé d'en faire. J'en ai fait pendant 8 ans et je suis maintenant, je suis redevenu un auditeur, mais un peu plus critique.
Mais c'est pas bon de passer des deux côtés.
J'écoute tout le monde et je vois des défauts à tout le monde, même aux plus vieux et à tout le monde.
Alors, on reviendra sur votre passion pour la radio plus à fond. André-Pierre, comment vous écoutez la radio? Vous êtes quel genre de mordu, vous?
Moi, je suis surtout un adepte de balado-diffusion. J'en écoute énormément. J'ai fait le calcul avant de venir ici. En ce moment, il y a 15 jours de radio que j'attends d'écouter impatiemment. J'ai de la difficulté même à les effacer. J'ai de la misère à faire des choix.
C'est dans votre quoi, votre ordinateur ou votre iPod?
C'est dans mon iPod, ouais. Je l'écoute quand je suis dans l'autobus, quand je conduis, quand je fais la vaisselle ou la cuisine. Et ça représente à peu près 60% de ma consommation de radio. Pour le reste, ça reste la consommation de radio quotidienne, que ce soit les émissions du matin, du retour, du samedi, à Radio-Canada et ailleurs.
Soyez gentils. Mais vous écoutez quoi exactement, là?
Moi, en ce moment, je suis dans une phase boulimique sur la radio publique américaine. Il y a différentes émissions. J'aime beaucoup Radio Lab, qui est une émission de culture scientifique, mais complètement déconstruite par rapport à nos standards à nous. On n'est pas du tout dans le magazine, on est dans une autre formule. J'écoute aussi beaucoup de radio qui nous vient de France Inter, France Culture. Je suis pas le seul à avoir ce petit penchant-là. Il y a de la très, très bonne radio qui se fait un peu partout, mais la moitié des balado-diffusions auxquelles je suis abonné sont des radios viennent de radios québécoises.
OK, la moitié, mais quand même la moitié qui vient d'ailleurs. Ça fait réfléchir à l'évolution de la radio, Claude Thibodeau. Voulez-vous nous rappeler quelques faits saillants?
Ben, la radio La radio a débuté au début des années 1900. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, on attribue la paternité de la radio à un inventeur électronicien des cantons de l'Est qui a voulu faire reconnaître ses droits de brevet sur son invention assez rapidement et qui a été rapidement court-circuité par les grands groupes industriels américains qui étaient RCA Victor, General Electric, où on constatait que de détenir les brevets pour faire la radio telle que nous la faisons, la transmission électromagnétique des ondes, c'était porteur d'un potentiel commercial absolument extraordinaire. Alors, il s'est engagé dans des batailles juridiques et puis de guerre lasse, il a réglé avec un tribunal de Boston pour céder les droits à des Américains pour un montant qui était de l'ordre, je pense, de 16 000 $, si je me souviens bien, ce qui était pas mal d'argent à l'époque, mais qui est incommensurable par rapport à l'impact de la radio. Si on regarde quelques jalons rapidement là, que moi j'ai observé souvent dans l'industrie de la radio, évidemment, après qu'elle ait été une institution avec les radios publiques, la radio est devenu rapidement une entreprise, parce qu'il y a des grands groupes industriels ou des grands hommes d'affaires qui se sont intéressés à ce médium naissant à l'époque. Alors, c'est devenu un commerce. On a assisté à un certain nombre d'événements importants en radio. À la fin des années 60, après la période Woodstock, les baby-booms occupaient tout l'intérêt du marché culturel et on a assisté à un changement important dans le domaine de la radio. On a cessé, tout le monde, d'écouter la même chose massivement. Et si vous regardez différentes publications qui s'intéressaient à la culture à l'époque, prenons-en une là, qui est très banale et connue de tous, le célèbre magazine Billboard, ben à la fin des années 60, on a multiplié les palmarès. Alors là, il n'y avait plus que du pop où tout le monde écoutait la même chose. Il y avait du country, du rock, du disco, du blues, etc. Et l'émergence de la radio FM dans les années au milieu des années 70 a fait en sorte que soudainement, on a fractionné l'écoute de la radio. Alors des gens pouvaient entrer dans une bulle et dire « Moi, je m'intéresse seulement à la musique gospel. J'écouterai donc une station FM gospel qui va m'approvisionner. » Et ça a accéléré un certain déclin commercial de la radio AM. En 1981, autre jalon très important, je vais faire ça vite, le président Reagan est élu. Et le président Reagan, républicain, veut... Reagan disait toujours « The government is not the solution, the government is the problem ». Et son mantra, lui, c'était de déréglementer toutes les industries. Alors, il a demandé aux gens des médias « Qu'est-ce que je peux faire pour enlever le gouvernement dans vos jambes ?» Et les propriétaires de stations de radio, qui voyaient leur FM monter, mais leur AM s'écraser, disaient « On aimerait moins de réglementation contraignante ». Et ce que Reagan a fait sauter à l'époque, en 81, si je me souviens bien, c'est ce qu'on appelait aux États-Unis la « fairness doctrine », la doctrine de l'équité, qui voulait que, dans une émission de radio, comme aujourd'hui, par exemple, si vous receviez des gens qui venaient dire que tel homme politique est un menteur ou un escroc, vous deviez, par règlement, donner à la même heure, au même moment, devant le même genre d'auditoire, la parole à quelqu'un qui viendrait faire le contrepoids de ça.
Eh ben.
Alors, quand on a éliminé ça à la radio AM américaine, on a vu, et canadienne par la suite, on a vu l'arrivée des grandes gueules, des gens qui pouvaient, sans aucune retenue, dire « un tel est un insignifiant, un tel est un imbécile », et personne n'avait à venir faire le contrepoids. Ça explique peut-être l'émergence d'un certain type de radio qui a été par ailleurs très populaire à Québec, on le sait, et ailleurs.
Qui a été? Qui l'est encore,
on pourrait dire. Et un autre élément important, je dirais, c'est que dans l'horizon contemporain, ça a été l'arrivée de la balado-diffusion, comme vous le disiez tantôt, mais aussi de la radio-satellite. Et l'hypothèse de la radio-satellite, au début, quand Sirius et XM ont été lancés aux États-Unis, c'était la notion suivante. C'est-à-dire, il y a une multitude de petits et de marchés moyens aux États-Unis, des petites villes de la taille de, je sais pas moi, Thetford Mines, tiens, par exemple, ou une station de radio latino ou de musique polka contemporaine ne trouverait pas suffisamment d'auditeurs pour la faire vivre. Et les gens qui géraient ces grands réseaux-là se sont dit, si on offrait des services hyper spécialisés sur un canal satellite qui arroserait tout le territoire nord-américain, ben il est possible qu'on retrouve 500 auditeurs à Thetford, 800 à Rimouski, 475 à Fond-du-Lac, Wisconsin. Et avec tout ça, on va se faire un gros paquet d'auditeurs qui vont être viables pour cette formule-là. C'est ce qui était leur hypothèse de départ. Malheureusement, ça n'a pas tenu la route. Et ils ont donc dû ressortir à des solutions genre Howard Stern ou faire des choses extrêmement dramatiques et spectaculaires pour réussir à créer l'auditoire. Et même ça, malheureusement, ça lève pas. Parce que...
Stern coûte cher.
Il coûte une fortune et lui-même déplore le fait qu'il n'y a pas plus que le tiers de ses fidèles auditeurs de la radio terrestre qui l'ont suivi sur satellite. Mmh. Et en conclusion, je dirais, et après je ferme mon...
Non, arrêtez, vous allez continuer à parler.
En conclusion, je dirais que la nouvelle donnée dans cet univers-là maintenant, et mon jeune voisin ici en est un parfait exemple, c'est la balado-diffusion. Et c'est le fait maintenant qu'on peut choisir, on peut écouter à peu près n'importe quoi, et sur à peu près toutes les plateformes. Alors, votre téléphone devient votre assistant personnel numérique, iPod, machin truc. Alors, même les gens qui ont investi dans la radio satellite se rendent compte maintenant que l'espèce de barrière à l'entrée que posait le fait d'être obligé de s'abonner vient soudainement pour toute une génération de consommateurs de créer un obstacle qui est à peu près économiquement ou philosophiquement insurmontable. Alors, même eux, leur modèle économique est menacé. Et je terminerai en disant que la bonne nouvelle dans ça, évidemment, c'est qu'on a ouvert la porte de la diffusion massive à des tas de gens, à des gens qui sont dans leur sous-sol et dont on n'aurait jamais entendu parler s'il n'y avait pas cette nouvelle façon-là de communiquer. Le troc qu'on a fait, le trading qu'on a fait en contrepartie, c'est qu'on a aussi ouvert la porte à beaucoup de médiocrité.
C'est drôlement, oui, ça fait réfléchir. Ouais. Moi, je pense que vous ouvrez une porte à André Pierre avec votre affaire de sous-sol. C'est-à-dire, comme dans MySpace, dans le fond, la possibilité pour des gens qui sont pas dans le réseau officiel de radio de créer des émissions. André Pierre, est-ce qu'on en a des exemples, ça, de gens, justement, qui sont absolument pas dans le milieu, mais qui peuvent faire de la radio grâce à la nouvelle façon de faire de la radio d'aujourd'hui?
Ben, je pense à des exemples comme Roman Mars, qui, lui, a lancé une émission avec peu de moyens. C'est un gars qui était plus issu du milieu de l'architecture et, en lien à San Francisco avec une grande école d'architecture sur place, a commencé à produire une petite émission qui a été adoptée par la radio publique locale et qui en a fait quelque chose de plus grand que le projet initial. Donc, c'est, on peut dire n'importe qui, mais en même temps, même si on décloisonne un peu là, les emplois de la radio, ça prend quand même une connaissance du milieu de la radio, ça prend quand même une envie de faire une radio particulière ou respecter certains codes, parce que il existe toutes sortes de podcasts aussi, pour le meilleur et pour le pire, il y a énormément de choses là-dedans qui vont pas chercher énormément d'adeptes parce qu'ils respectent pas les codes de radio de base, selon moi, là, c'est mon opinion personnelle, qui fait que c'est agréable d'écouter de la radio et puis qu'on peut en écouter longtemps.
Qu'est-ce qui fait que c'est agréable d'écouter de la radio, justement? Qu'est-ce qui fait la force du médium pour vous, Richard?
Moi, parce que on voit la différence de génération entre André Pierre et moi. J'ai 66 ans, donc on n'a pas la même façon d'écouter. On peut n'écouter pas les mêmes choses. On n'a même pas les mêmes outils pour écouter la radio. Ce qui est intéressant dans la radio pour moi, c'est le côté immédiat. Alors moi, j'ai pas le réflexe d'enregistrer puis d'écouter plus tard ou d'écouter un podcast ou que je peux écouter puis que je vais retrouver dans demain. Moi, ce que j'aime dans la radio, c'est vieux jeu, c'est que c'est maintenant, ici et maintenant, comme quand j'étais musicien, c'est le public qui est là, tu joues là, après la note est finie, c'est fini. Puis quand on fait de la radio, quand on arrête de parler, il y a un silence, une seconde, deux secondes, c'est trop tard. Parce que c'est maintenant. Si c'est enregistré, on peut l'arranger, on peut le trafiquer. Mais c'est pas vraiment trafiquer, mais c'est l'arranger pour qu'il soit beau, puis on peut l'utiliser à n'importe quelle heure de la journée. Moi, j'ai pas ce réflexe-là. Je l'ai forcément à force d'être sur Internet et tout ça. Et ceux qui fabriquent des émissions personnelles, on peut dire, dans leur sous-sol, je m'aperçois qu'ils ont souvent les mêmes réflexes que quand ils sont sur Facebook ou sur Twitter, c'est-à-dire la censure est pas la même. Les règles du jeu dont André-Pierre parle n'existent pas ou moins. Moi, ça me chicote, ça.
La posture d'autorité aussi. Ouais. Un animateur de radio va se présenter en disant « bon, ben, on va parler de ça ». Il y a une certaine posture d'autorité. Et dans les blogs, il n'y a pas nécessairement ça. Et dans donc les podcasts faits maison, si on veut, il n'y a pas nécessairement ça non plus.
Non, il peut y avoir une certaine anarchie. Qu'est-ce qui fait que vous écoutez 50% de contenu qui vient de l'extérieur? Qu'est-ce que la radio américaine ou la radio française vous offre de tellement superbe que vous en écoutez la moitié du temps?
C'est une radio qui est différente. Ça, c'est sûr que ça fait toujours du bien d'avoir toutes sortes de choses différentes dans les oreilles. Les Français, par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup avec la radio française, c'est une manière de faire qui est très scriptée, qui est très théâtrale, avec une langue incroyable, très bien utilisée. Bon, c'est leur propre. Du côté des Américains, ils vont faire, dans ce que je remarque pour l'instant, dans ce que j'écoute, dans ce dont je suis addict en ce moment, c'est justement une radio qui est plus sous forme de conversation entre deux personnes, un peu comme un dialogue socratique. Ça revient beaucoup, cette formule-là. Donc, les animateurs vont « Ah, j'ai trouvé tel sujet qui est très intéressant, ils en parlent. » Puis après, ben, ils remettent ça en perspective, en réalisant bien qu'ils sont pas les experts de ces questions-là. Donc, c'est assez varié. Ce que j'aime aussi beaucoup dans la radio américaine en ce moment, c'est qu'il y a une surenchère au niveau de la production sonore. On fait des contenus hyper léchés. C'est pratiquement du niveau de la réalisation de films. On utilise les micros, on fait de l'enregistrement de la prise de son qui est très différente, puis on utilise aussi un peu le pathos dans la manière de raconter les histoires. Donc, on va mettre de la musique à certains moments pour créer une émotion particulière. C'est beaucoup plus fin. Donc, pour moi, ça se rapproche beaucoup aussi de l'écoute d'un film, mais les images, elles sont dans la tête, finalement.
Claude Thibodeau, qu'est-ce qui vous a éveillé, vous, à la radio? Vous étiez tout jeune, hein?
Oui, oui, j'étais adolescent et on m'avait donné un transistor en cadeau. Alors, quand mes parents m'envoyaient me coucher le soir vers 9h30, ben, j'avais l'air de dormir dans ma chambre, mais j'écoutais les stations de radio AM à l'époque. Bien sûr, c'était l'univers du AM. Et comme tout le monde le sait, quand les conditions météo sont appropriées, vous pouvez littéralement capter presque des stations du Mexique si vous avez un bon appareil. Après la tombée de la nuit, bien sûr. Alors, j'écoutais tout ce qui se faisait de grandes stations américaines et ça a influencé ma lecture. Mais je voudrais faire du pouce un peu sur l'idée de mon voisin.
Ouais.
Je suis allé récemment en France travailler avec un groupe de propriétaires de stations de radio qui venaient d'acquérir une station de radio à Paris qui n'allait nulle part et qui veulent adapter en station All Sport. Je vous excuserai l'anglicisme, je l'ai pris à Paris. Le All Sport, ça. Et j'ai eu l'occasion, le privilège de rencontrer le célèbre Arthur, l'animateur qui est dans ce groupe-là. Et j'ai eu une discussion avec lui, un brainstorm, comme on dit, extrêmement intéressant. J'ai trouvé ça fascinant. Et autant les Français sont dépositaires d'une culture et d'une approche qui nous est parfois étrangère, autant ils sont éblouis par la façon nord-américaine de faire le marketing des médias, de la radio aussi, bien sûr, mais des médias en général. Et ça a été extrêmement intéressant.
Nord-américaine de faire le marketing?
La façon nord-américaine de faire le marketing depuis quelques années, c'est fort probablement de dire qu'il n'est plus suffisant maintenant d'avoir ce que j'appellerais un format radiophonique. Vous ne pouvez plus vous contenter juste de dire, on joue des balades sirupeuses à la Whitney Houston. Il faut avoir, Dieu et son âme, il faut avoir une attitude. T'sais? Alors, si tu exploites une station, prenons des modèles que les gens connaissent bien à Québec, prenons Radio Énergie, par exemple, alors on dira de Radio Énergie que life is a party, la vie est un party. Écoute, cette station-là, c'est toujours restez là, des billets tantôt pour Madonna. Vous en allez à Radio X, l'attitude, c'est, nous prenez-vous des caves, on sait que vous êtes en train d'essayer de nous fourrer, puis on le prend pas, puis c'est pas vrai, puis bon, OK, tu changes de poste, tu t'en vas à Rock Détente, c'est plus Rock Détente, ça s'appelle Rouge.
Oui.
À Rouge, l'attitude, c'est merveilleux, la vie est belle. Un homme a tué sa femme à coup de H.I.M. On n'en parlera pas avec trop de détails dans le bulletin de nouvelles, car on pourrait péter votre bulle. Alors, les stations ont des attitudes.
Vous êtes gentil, vous nous avez ménagé. Vous ne savez pas quelle est votre image de Radio-Canada?
J'en ai une. J'en ai une, bien sûr. La radio de Radio-Canada, pour moi, c'est une radio où on privilégie... C'est une institution. Alors, on la traite comme une institution. La radio de Radio-Canada a ceci de différent de la télévision de Radio-Canada, qu'elle n'est pas sous la dictature des codes d'écoute, donc des obligations commerciales. Ça change la donne considérablement. Oui. Ça permet des explorations intéressantes, mais ça peut aussi avoir des effets pervers qu'on verra de temps à autre. Mais c'est
comme
une radio qui privilégie, à mon avis, privilégie toujours le contenu au contenant.
Et l'effet pervers de ça, ce serait quoi?
Il y en a plusieurs. On a des vaches sacrées à la radio de Radio-Canada. Et il y a une vieille expression qui dit que les vaches sacrées font les meilleurs hamburgers. Alors moi, je suis de cette école de pensée. Et la principale différence entre Radio-Canada Radio et les radios dites commerciales, c'est, je vais essayer de le résumer en 10 secondes ou moins. Les radios commerciales essaient de plaire à tout le monde en même temps. Radio-Canada essaie de plaire à tout le monde, mais en utilisant des créneaux différents dans toutes les demi-heures ou dans toutes les plages. Ce qui fait que vous avez une radio qui est programmée un peu comme une station de télévision, où vous pouvez passer une émission sur la littérature, une émission sur les sports, une émission sur les enfants, un magazine scientifique. Et ce n'est pas tout le monde qui a le désir de s'exposer à ce genre de permutation perpétuelle en continu. Alors qu'à la radio commerciale, une fois qu'on a défini que l'attitude, c'est l'attitude Rouge ou Énergie ou Radio X, c'est mur à mur toute la journée.
Ouais, j'aime bien votre analyse. Maintenant, on va regarder la radio telle qu'on la connaît. Comment devrait-elle évoluer? La voyez-vous menacée? Est-ce que vous avez l'impression que le modèle que vous aimez... Bon, Richard, est-ce que vous avez l'impression que votre radio est menacée? Que vous aimez?
Je trouve que la radio actuelle, la radio, là, celle qu'on fait ce matin, là, elle s'est pas aperçue que les outils pour l'écouter avaient changé. Moi, j'aime beaucoup les outils. Je suis un ancien travailleur manuel. Moi, quand j'avais 20 ans, je me suis acheté une auto, puis il y avait pas de radio dedans dans ce temps-là. Puis si on avait une, il fallait l'acheter dans un magasin, puis c'était du AM. Il fallait aller à un magasin, ça prenait 2 heures, passer les fils en dessous du tapis. C'était comme ça.
Un bricolage.
Mais ma nièce m'a dit qu'elle s'est acheté une auto, puis elle dit, viens voir mon auto. Elle rentre dans son auto. Si elle a son iPhone allumé dans sa sacoche, la radio s'aperçoit qu'elle s'est allumée. Et si ça sonne, elle pèse un bouton dans le tableau de bord, puis elle répond à main libre par le système de son de la voiture.
L'interconnectivité.
Oui, et elle écoute son iPod. Mais la radio ordinaire, elle, qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Elle s'est pas aperçue, là, que c'est le même outil. Qu'il faudra qu'elle fasse quelque chose. Parce qu'il se passe quelque chose. Moi, je suis un ancien art visuel, et j'ai vu que quand la photo... Il y avait un photographe tantôt, super intéressant, votre émission. Quand la photo a été inventée, la peinture s'est aperçue qu'il y avait quelqu'un qui avait volé sa job en partie, représenté les visages et tout ça. Bon, un voleur de job qui faisait ça des fois mieux. Mais ce que ça a fait, ça a libéré la peinture de ce job-là. Alors, je peux faire ça, moi, la peinture, je peux faire la couleur.
On n'a plus à représenter le réel, exact, puisque la photo.
Je peux pas. Alors, qu'est-ce que je suis, moi, la peinture? Qu'est-ce que j'ai, moi, que la photo a pas? Ben, j'ai la couleur, d'abord. Puis après ça, la figuration, je n'ai plus besoin. Mais entre l'invention de la photo puis l'art abstrait, il y a 50, 60 ans.
Donc, on en est à une réinvention forcée de la radio.
Oui,
là.
Le cinéma, c'est pareil. Le cinéma arrive, le théâtre se réajuste 50, 60 ans plus tard. Ces nouveaux machins arrivent. André Pierre en est un consommateur puis un utilisateur. Ces moyens-là arrivent. Il va falloir que la radio pense qu'est-ce que je fais, moi. Qu'est-ce que j'ai, moi, la radio normale, ordinaire, que les autres ont pas, puis me mettre là-dedans, puis faire mon travail là-dedans. Mais donc, mais ça prend, c'est pas la semaine prochaine. Ça se peut que ça prenne 30 ans. Moi, ça m'inquiète pas, mais...
Il y a quelque chose que je trouve, j'ai l'impression que la radio est peut-être moins en compétition avec Internet qui arrive, dans le sens où, en général, la radio, on l'écoute pas quand on a les yeux rivés sur un écran. On n'a pas la possibilité d'avoir les yeux rivés sur un écran. Quand je suis à la maison le matin, je peux prendre mon ordinateur puis regarder les journaux par mon ordinateur. Effectivement, je suis en compétition avec... mon ordinateur rentre en compétition avec le format papier. Donc, les journaux doivent trouver une manière de s'adapter par rapport à l'omniprésence des écrans.
Il y a certainement un modèle d'affaires aussi qui va devoir changer. Oui.
La radio, on l'écoute dans des moments où on ne peut pas avoir les yeux rivés sur un écran. On l'écoute dans l'auto, on l'écoute justement en mangeant, on l'écoute...
C'est une espèce de prix de consolation?
Comment ça?
Dans le sens où vous...
Un peu.
Quand vous pouvez pas fermer.
Ben, c'est vrai, moi un des moments que je préfère pour écouter la radio, c'est quand je fais l'épicerie. Ben, à ce moment-là, il n'y aura jamais un écran d'ordinateur qui va pouvoir prendre la place de ça, parce que...
Il n'y a rien d'autre que vous pouvez faire.
C'est vrai ce que vous dites. À l'épicerie, il y a des petits écrans près des boîtes de pâtes alimentaires, là, où il y a une démonstration vidéo sur comment faire cuire mes pâtes. Alors, si je suis votre logique, je vais fermer mon iPod et je vais écouter le cours de cuisson de pâtes alimentaires.
C'est ça, il faut pas.
Claude, il y a même des radios internes maintenant. C'est-à-dire que quand vous entrez à l'épicerie, ils font leur propre radio.
Radio IGA, absolument.
Ouais. Ça, c'est une menace pour nous autres. Gilles, on vous a pas beaucoup entendu, mais Catherine, j'aimerais vous entendre là-dessus.
Mais moi, ce que j'aime fondamentalement de la radio, c'est la radio éternelle, si j'ose dire. Sa polyvalence. La coexistence possible de montage et de direct. Parce que ce que ça produit, c'est au plan des émotions complètement différent. Ce que j'aime par-dessus tout à la radio, c'est la voix. J'aime la voix à la radio. Et parce qu'à la radio, la voix que nous avons est travaillée par des techniciens, réalisateurs. Et quand le technicien est habitué à la voix d'un animateur, il va aller la moduler. Et là, les animateurs... Je vais parler de vous. Tout à l'heure, vous avez fait une sortie la sortie à 10 heures, là, parce que nous, on a un chronomètre devant nous. Là, il y a quelque chose comme
face.
Ça. Et moi, ça fait, depuis mon enfance que je suis fou de ça. J'adore Michel Desautels, ne serait-ce que pour sa fermeture de micro.
Ah, oui.
Oui, oui. Il y a un côté,
ça quand
non.
Mon micro se fait.
Et la polyvalence, pour moi, c'est que la radio, il peut y avoir de la musique, il peut y avoir des émissions de parole et il y a des moments de silence. Et les silences peuvent devenir dramatiques et devenir éloquents. Et surtout, bon, au plan du contenu, je trouve que la radio, on peut aller beaucoup plus loin qu'à la télé, parce qu'à la télé, on a à se soucier de tellement de choses, notamment la circulation des plans avec je sais pas à quelle vitesse. Il faut qu'à toutes les 5 ou 6 secondes, on change de plan, parce que sinon, il semble que le téléspectateur deviendrait aveugle ou ce serait soporifique.
Ça, c'est quand la caméra vous donne pas le mal de mer aussi.
Oui, donc ce qui fait qu'à la radio, on peut avoir ces éléments-là. Moi, j'ai aussi une vertu utilitaire à la radio, c'est que depuis 30 ans, je fais mes repas au gré des bonnes émissions. Et les bonnes émissions qui étaient plutôt à 16h30 à une époque au FM de Radio-Canada sont passées maintenant à moi j'aime beaucoup l'émission de politique, l'émission économique, j'aime pas l'économie, mais j'aime même l'émission d'économie. Et là, je peux écouter l'émission et faire quelque chose d'utilitaire comme la cuisine. Je ne commencerai pas à cuisiner à 3h pour écouter Diane Martin,
c'est
vous
dommage.
Comprenez? Non, mais écoutez, je soupe quand même à 8h.
Ben, je rejoins Gilles, moi j'aime la lenteur à la radio que j'écoute bien sûr, hein, mais je trouve qu'on vit dans une espèce de société hyperactive où on doit faire 1000 tâches en même temps, où il faut absolument voir, vérifier notre fil Twitter, regarder un bout d'écran ici, même en studio on a 3 écrans devant les yeux, alors cette lenteur-là à la radio me plaît et la radio que je télécharge de temps à autre, là, je suis pas aussi boulimique que vous André-Pierre, mais c'est une radio qui est un peu lente, qui nous permet 2000 ans d'histoire à France Inter, entre autres, qui nous permet d'avoir une heure ou une demi-heure sur le pain ou sur l'humour. Une heure sur l'humour. J'aime ça. J'aime le contenu. Alors, tout est dans la voix, vous le disiez, Gilles, mais dans le contenu aussi. On n'est pas distrait là, par, je sais pas, la boucle d'oreille qui est tombée de l'animatrice ou la
le
dame.
Rouge à lèvres qui ne va pas avec la chemise. Grande préoccupation parfois quand on regarde la télé. Il y a des auditeurs, des téléspectateurs qui nous écrivaient là-dessus. Claude Thibodeau, à votre avis, ça vous fait sûrement beaucoup réfléchir, tout ça. Comment voyez-vous le modèle commercial tel qu'on le connaît évoluer? Est-ce qu'il est menacé?
Ben, on a déjà constaté puis établi qu'il y a une espèce de surabondance de l'offre et tout ça, puis l'espèce de troc dont je parlais un peu plus tôt, là, entre avoir accès à une multitude de choix maintenant qu'on n'aurait pas eu il y a quelque temps, mais le fait que la qualité ambiante a peut-être baissé. Je vois un événement qui s'est produit dans l'histoire récente qui donne une idée de la météo pour les médias, pour la radio. Souvenez-vous, aux États-Unis, il y a quelques mois, Madame Arianna Huffington, qui avait le HuffingtonPost.com, a vendu son site Internet, somme toute, à America Online, je crois, pour je sais plus combien de millions, là. Je pensais quelque chose comme 100 millions, en tout cas, un autre miracle du .com, là. Et beaucoup d'observateurs ont dit, ben voyons donc, sur l'Internet, des blogueurs, comme il y en a à HuffingtonPost.com, il y en a des milliers de blogueurs, pourquoi ça vaudrait si cher, alors que n'importe qui peut partir une franchise comparable gratis, à la porte d'à côté? La raison est simple, c'est que Mme Huffington, elle a fait une agrégation de blogueurs, de gens qui sont intéressants, qui ont l'intelligence, qui provoquent notre imagination, qui nous font dire « Oh wow, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là, ou j'avais pas pensé à ça ». Et moi, je pense qu'en faisant ça, elle a fourni la réponse actuelle, contemporaine, au fait que même dans un univers où n'importe qui dans son sous-sol à Sainte-Anastasie peut nous faire quelque chose d'intéressant et donner son opinion sur tout et sur rien, puis dire une chose de son contraire dans le même paragraphe de blog, ben on va toujours rechercher de l'intelligence. Alors je crois que les radiodiffuseurs qui vont réussir à passer à travers tous les changements médiatiques et les adaptations et l'augmentation démesurée de l'offre au cours des prochaines années seront ceux qui vont faire le plus bel agrégat de contenu qui challenge l'intelligence et l'imagination.
Mais moi, j'aime bien votre vision de l'avenir, mais c'est pas un peu optimiste quand on tient compte des coûts? Parce que qui veut lancer quelqu'un aujourd'hui à la radio, surtout la radio commerciale?
Ouais,
ça coûte une fortune pour découvrir des talents. On aime bien mieux aller sur les valeurs, les valeurs sûres.
En fait, on veut avoir un rendement rapide. Je veux dire, dans tous les marchés, partout, à de très, 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 très rares exceptions, ce sont toujours des grands groupes de médias qui possèdent les stations. Et ces groupes-là ont 2 ou 3 caractéristiques. Ils sont en bourse, ils sont sujets à la dictature de la rentabilité à court terme. Leur strate de management intermédiaire sont remplies de carriéristes et d'arrivistes. Et je le dis pas de façon méprisante. Je dis, ce sont des gens qui ont un plan de carrière. Et s'il faut violer certains principes qui leur sont chers pour monter dans la compagnie, ils vont le faire. Vous avez tous vu le film La Grande Séduction. Et souvenez-vous du savoureux gérant de caisse populaire ou de banque qui est joué par Benoît Brière. Puis à un moment donné, il faut qu'il fasse un prêt au maire du village pour la foutue usine de contenants Tupperware en plastique ou Tupperware, je sais pourquoi. Il appelle son ancienne copine de classe qui est la vice-présidente de la banque à Montréal. Puis elle dit non, on le donne pas le prêt. Puis il lui dit, ben au diable, je le donne parce que ma responsabilité est pas vis-à-vis la banque, ultimement, elle est vis-à-vis les gens avec lesquels je vis. Alors, si vous regardez les gens qui sont gérants de caisses populaires, je veux pas m'acharner sur ces gens-là, mais un gérant de caisse populaire, il passe dans une ville, dans une municipalité, on lui a donné une caisse d'une taille moyenne, il regarde un peu, il essaye de bien faire ici, mais il est tout à fait à l'écoute du siège social qui va plus tard lui dire, t'as bien fait à Thetford, on va t'envoyer à Sherbrooke. Tu vois, c'est plus gros, c'est plus intéressant. Alors, voyez le minding. Alors, son allégeance, est-ce qu'elle est à la personne qui a de la difficulté à rembourser son hypothèque à Notre-Dame-des-Laurentides, ou si elle est au siège social qui, s'il gère bien ses rentabilités, pourrait lui permettre de monter dans la compagnie? Et ben, je pense que je donne la réponse. Alors, les médias sont gérés par des gens qui voient ça comme ça maintenant. C'est correct, faut accepter ça, c'est comme ça. Alors, il y a des effets pervers.
Ouais, vous dites que c'est correct, mais il y a une petite lueur dans le fond de votre œil qui me dit que je suis pas sûr que vous pensez à fond. André-Pierre, comment vous souhaitez voir évoluer votre radio? Et c'est le mot de la fin, on amorce une conclusion.
Mais je trouve qu'elle se porte assez bien, la radio, parce que justement, je pense pas qu'elle soit vraiment prisonnière de ses vieilles habitudes. J'ai l'impression aussi que on va avoir de plus en plus accès à des personnes qui vont faire des essais, qui vont faire des guesses et qui vont l'emporter parce qu'au bout du compte, ils vont avoir eu raison de produire une radio qui est différente. Puis c'est comme ça aussi qu'on va voir apparaître des nouveaux talents en radio privée, en radio musicale. C'est toujours comme ça que ça s'est développé. Elle offre assez bien ce que les gens attendent.
Richard Sainte-Marie?
Moi, je pense que Catherine Ève avait raison et Claude aussi. Je ferais un mix des deux. La radio devrait ralentir pour laisser plus de temps. Il y a une phrase que jaillit, c'est le tout le temps que nous avions. Mais prenez-le, le temps, vous allez l'avoir. Puis, ici, est-ce que nous, on écoute la radio, mais est-ce que la radio nous écoute? Est-ce que la radio écoute les auditeurs? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il savoir qu'est-ce qu'on aimerait? Moi, personnellement, j'aimerais une radio, la première chaîne qui ressemblerait à France Culture. Une radio parlée, pas pour dire des niaiseries, mais pour dire des choses. Il y a quasiment pas de musique à France Culture. Pendant une heure, t'entends un philosophe. Pendant une heure, t'entends un poète. Pendant une demi-heure, t'entends un écrivain. Et on a le temps, on prend le temps. Puis on passe à un niveau intellectuel, à mon avis, qui me satisfait. Sinon, on prend les moyens des médias sociaux.
C'est tout le temps que nous avions,
cool.
Richard.
Merci, Catherine Ève.
Hey, Catherine Ève, je suis tellement contente que vous le disiez à ma place, parce que je m'en serais voulu.
Puis-je faire remarquer qu'à la radio montréalaise, on n'aurait jamais pris le temps de faire le débat que nous avons ce matin. C'est tout le temps qu'on a, on passe à la pause publicitaire. C'est vraiment leur lot à eux, alors qu'à Québec, on pratique une doctrine qui est à l'opposé de ça.
C'est vous qui avez le mot de la fin, Claude Thibodeau, et c'est faut bien qu'on mérite un peu notre titre. Après tout, on s'appelle pas samedi de prendre le temps pour rien. Claude Thibodeau, André-Pierre Bérubé, Richard Sainte-Marie, ça a été un plaisir de vous avoir en table ronde. J'espère que vous avez eu le temps d'élaborer autant que vous le vouliez. Et j'espère que je vous reverrai à cette table très bientôt.